Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce mercredi est Lancelot Durand. Il est membre des Républicains, ancien conseiller régional jeune de Bretagne. Et il a fait la route pour être avec nous ce matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler évidemment de l'actualité politique. Elle est assez importante, cette actualité politique en ce moment. J'avais envie de commencer évidemment par l'élection de Bruno Retailleau à la tête des Républicains. Voilà, il n'y a pas eu de psychodrame, tout s'est bien passé, il y a eu un échange téléphonique avec Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est le renouveau de LR ?
Oui, oui, totalement. On a un Bruno Retailleau qui est élu à 75%, ce qui lui permet d'avoir une avance considérable. Ça lui permet aussi d'avoir une certaine légitimité. On a pu voir des élections anciennes sous LR ou voire même l'UMP avec Jean-François Copé et François Fillon. On avait des victoires à 52%. Donc c'est là où facilement 2-3% des électeurs peuvent se dire bah, « on s'est trompé, on aurait dû aller ailleurs ». Là, 75%, c'est une victoire nette. Donc ça approuve le fait qu'il soit au gouvernement et l'alliance avec le gouvernement. Après, je suis assez satisfait de voir que Laurent Wauquiez a accepté le résultat, que hier ils étaient tous les deux en réunion de groupe des députés LR à l'Assemblée. Laurent Wauquiez a demandé un vote de la part des députés LR pour savoir s'il continuait à être président ou pas. À l'unanimité, ils ont voté pour qu'il reste député. Donc, niveau division, il n'y en a pas. C'est ce qui était un peu craigné, mais il s'avère que finalement, on sera unis. Donc oui, un renouveau de la droite. Passer de 40 000 à 120 000 adhérents, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. En Bretagne, je n'ai plus exactement les chiffres, mais on est quand même sur du plus 1 000 adhérents. Mmh. Donc, majoritairement pour Bruno Retailleau, de ce que j'ai vu, 80% pour Bruno Retailleau dans les Côtes d'Armor, 94% pour Bruno Retailleau dans le 56. Donc, on a des chiffres assez nets. Donc oui, je pense qu'il y a un renouveau, on le voit bien avec l'élection de Marie-Christine Dalloz très récemment aux législatives partielles, celle d'Elisabeth Demestre en Haute-Seine, si je ne me trompe pas. Et il y en a une élection législative partielle qui a eu ce week-end. Et pareil, le candidat LR arrive au second tour derrière le Rassemblement National et ça devrait nous permettre d'avoir un député en plus. Donc ça voudrait dire que toutes les législatures partielles qu'on a eues, les élections législatives partielles qu'on a eues depuis septembre, nous les remportons. Mmh. C'est un bon signe.
Il y a une envie de droite en France, parce qu'on le voit, le paysage politique, on en parle très souvent sur cette antenne, est très chahuté, pour ne pas dire très tendu également. On voit LFI, qui est beaucoup dans le devant de la scène, dans l'actualité. On a un PS qui est un petit peu atone en ce moment. Et on disait LR moribond, pour ne pas dire en voie de disparition. Et là, il y a ce renouveau. Est-ce que c'est la personnalité de Bruno Retailleau, est-ce que c'est aussi le fait de ces prises de position au sein du gouvernement qui font que les électeurs se tournent à nouveau vers la droite ? Finalement, est-ce que les électeurs de droite retrouvent leur droite, si vous me permettez ?
Oui, je pense qu'ils retrouvent leur droite parce qu'on avait une droite qui, depuis 2017, avec les coups bas qu'il y avait eu entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, ça avait détruit la droite. Puisque les deux courants qui s'opposaient, ils se sont détruits entre eux à cause des affaires, etc. La droite, y détourne, etc. Et donc, je pense sincèrement que le fait que Bruno Retailleau revienne sur le devant de la scène en étant ministre d'État, ce qui n'est pas rien, et ministre de l'Intérieur, lui permet d'être le représentant de la droite au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et notamment, il dispose d'une certaine liberté. Alors, il y en a certains qui disaient qu'il n'avait pas totalement de liberté. Il arrive quand même à avancer ses pions. Mmh. Et à faire changer la situation, on a la chance d'avoir Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui lui s'inscrit dans une continuité et qui, je pense, veut revenir à droite. Mmh. Il était parti, enfin, il était toujours resté quand même au centre-droite, mais n'a jamais vraiment oublié l'UMP ou son passé à LR. Et donc, nous fait pas mal de clins d'œil au vu de ses propositions. Donc oui, je pense que la droite s'est relevée. Après, avec la France insoumise, on a une France insoumise qui continue de s'isoler sur l'échiquier politique. Même au sein du NFP, il y a des tensions qui sont assez grandissantes au sein du PS, parce que le PS, qu'on le veuille ou non, est resté un parti de gouvernement, Et donc,
il y a une division à gauche qui pourrait finalement profiter à la droite.
Je pense. Oui, on l'a bien vu. Un courant ou une partie de l'échiquier politique qui se divise, c'est un peu voué à l'échec aux élections présidentielles ou législatives. On le voit bien. En 2017, il n'y avait pas d'alliance à gauche. La gauche représentait 70 députés sur les 577. Avec leur alliance, ils sont passés autour de 140 ou 170 en 2022 et presque 200 aux dernières législatives. Donc ça prouve bien que quand il y a une alliance, notamment à gauche, ils avancent ensemble.
Avec une possibilité, en tout cas, voilà, on va revenir le spectre de la possible dissolution, peut-être également une censure du gouvernement, voilà plusieurs choses qui pointent un petit peu à l'horizon. Là encore sur le budget, on va en dire un mot du budget tout à l'heure, mais est-ce que là aussi ça peut amener une alternance un peu avant l'heure ?
Non, je pense pas. Je suis même pas certain qu'il y ait une dissolution cette année. Parce que en septembre encore, on aurait pu dire qu'il y aurait une majorité absolue qui aurait pu arriver avec le RN s'il n'y avait pas de Front Républicain, ou alors une majorité nette qui se serait déclarée avec le NFP. Aujourd'hui, avec les histoires d'assistants au Parlement européen du Rassemblement National, ça les fait baisser dans les sondages. Pour la France Insoumise, qui tient des positions encore très douteuses sur certains sujets, ça les fait également baisser dans les sondages. Donc aujourd'hui, si on dissout au mois de juillet, on aurait des élections potentiellement au mois mi-août, fin août. Je pense que on aurait une assemblée presque similaire, peut-être plus de sièges pour la droite, mais ça serait autant divisé. Je pense que ça sert pas à grand chose. Ça n'irait pas dans l'intérêt de la nation.
Avec là aussi, on a donné le Rassemblement National très très puissant. Et puis il y a eu l'affaire des assistants parlementaires, Marine Le Pen, le jugement, peut-être la confirmation de son inéligibilité. Je vais y arriver. En tout cas, elle ne sera peut-être pas éligible. On va le faire comme ça. Voilà le retour de Jordan Bardella sur le devant de la scène. Est-ce que ces affaires ont aussi ralenti un petit peu la progression du Rassemblement National ? Et là aussi, ça profite finalement à la droite républicaine.
Bien sûr, parce qu'on avait un Rassemblement National le Front National qui a été créé en 72, qui s'est créé sur le fait que c'était une nouvelle partie de la classe politique avec qui étaient contre les tous pourris, etc. Et que eux, c'était les seuls à pas détourner de sous, etc. Bon, on se rend compte qu'en fait, ils sont pas épargnés non plus et que malheureusement, c'est un grand problème. Mais il y a une partie de la classe politique, quand ils sont aux manettes, ils se permettent un peu d'en prendre une partie pour eux. C'est bien dommage. Donc oui, je pense que ça profite à la droite. Le RN a aussi gagné des voix, notamment parce qu'il... parce que la droite a fait le vide. On n'a pas renouvelé d'idées, on n'avait plus de matériel militant, on ne cherchait plus vraiment à gagner des élections, on cherchait à maintenir.
Est-ce que la droite n'a pas fait un petit peu de gauche, si vous me permettez ? À une époque, la gauche voulait faire un peu de droite, la droite a fait un peu de gauche.
Oui, on a eu une droite qui s'est un peu plus modérée sous l'UMP, sous Jacques Chirac notamment, bon, qui s'est un peu plus redroitisée sous LR avec Sarkozy quand même. Mais oui, c'est sûr qu'à l'époque du RPR, on était plus à droite que maintenant, plus gaulliste aussi.
Il y avait des figures, hein, on pense à Pasqua, on pense
Pasqua,
à qui étaient des figures clivantes, évidemment.
Philippe de Villiers aussi.
Ou Philippe de Villiers.
Mais bon, après, c'est des gens qu'on peut retrouver. Enfin, ils peuvent revenir, je ne pense pas que Philippe de Villiers reviendra chez nous, je ne pense pas. Mais on retrouve quand même un Bruno Retailleau qui était quand même plus gaulliste, qui faisait partie de ce RPR qui était le plus à droite. Donc s'il est élu à 75%, c'est qu'il y a une volonté des adhérents de redroitiser tout ça. Alors dire oui, c'est la droite extrême que j'entendais Olivier Faure dire. Bon, je ne sais pas si on peut se permettre de parler et d'employer ce genre de terme. Aujourd'hui, on voit de l'extrême droite partout à partir du moment où on a dépassé le PS. Arrêtons systématiquement de vouloir extrémiser le débat politique en disant oui, ça c'est l'extrême droite, l'extrême gauche. Non. Se comporter de cette manière, c'est se comporter comme un extrémiste.
C'est souvent ce qu'on entend à gauche et chez LFI. Hein, ça nous ramène à LFI souvent. Dès qu'on a dépassé effectivement la frontière du PS, vous êtes quand même dans l'extrême. Enfin, je dis vous, les partis qui sont à droite.
On a l'extrême centre, l'extrême droite. Macron fricote avec l'extrême droite, on entend souvent. Et eux, ils ne sont pas d'extrême gauche. C'est des gens qui, non, ils ne sont pas d'extrême gauche du tout. Pourtant, leurs positions ne sont pas les plus modérées. Donc,
Il y a une inquiétude des Français de cette extrémisation du débat politique. C'est peut-être ça aussi qui profite, j'allais dire, au parti classique et là encore aux Républicains.
Oui, on a une extrémisation. Plus ça va, plus... Bah, le problème, c'est que le parti d'Emmanuel Macron qui s'est créé en 2017, qu'avait pour but d'avoir de l'aile gauche à l'aile droite les plus modérées, le centre droit, le centre gauche. Donc il a attiré tous les modérés des partis et donc a un peu radicalisé les partis entre guillemets républicains comme le PS, où on a vu la victoire d'Olivier Faure qui a fait une alliance avec le NPA et les FI, ou à droite où on n'a pas fait d'alliance avec le RN, ça on a ça pour nous quand même, on a été fidèle à nos valeurs, mais on a eu un Éric Ciotti qui tenait une branche quand même assez à droite, même jusqu'à aller s'allier avec le RN aujourd'hui.
Il fallait tourner la page Ciotti aussi, c'était une tâche dans l'histoire de LR.
Oui, je pense que c'est même pas une page qu'il faut tourner, c'est carrément un nouveau livre qu'il faut ouvrir. Je pense que LR a été trop entaché, donc il faut changer le nom du parti, il faut changer le parti, il faut renverser les logiques. D'ailleurs, c'est ce que proposaient Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, c'est-à-dire que depuis l'élection d'Éric Ciotti, notamment, tout se dirigeait à Paris. C'est-à-dire que les adhérents suivaient ce qui était dit par le bureau politique, mais c'était des gens nommés. Et donc, ça se passait comme ça. Le problème, c'est que les adhérents, on ne leur donnait pas la parole. On avait une consultation une fois tous les 5 ans pour leur demander « Est-ce que vous approuvez ce qui est fait ?» sans vraiment leur dire « Est-ce que vous voulez proposer autre chose ?» Donc là, normalement, ça devrait être inversé, c'est-à-dire que c'est les fédérations qui proposeront et il faudra mettre des espèces de référendums au sein du parti pour leur dire quelles sont les grandes directives que vous voulez voir émerger sur la scène politique.
Il faut renouer avec le terrain. On entend beaucoup les Français aujourd'hui dans leurs préoccupations quotidiennes, dans les difficultés qui sont les leurs, difficultés économiques, difficultés sociales. Il y a une demande qui se tourne d'ailleurs souvent vers le Rassemblement National. On a vu les scores lors des dernières élections. Il y a nécessité pour LR de retrouver le terrain, de ressentir le terrain, comme disait un illustre devancier du nom de Charles de Gaulle.
Oui, il faut qu'on retrouve le lien avec... Le terrain, les territoires ruraux, etc. Après, on ne l'a pas vraiment perdu. On conserve énormément de mairies, pas forcément LR, mais divers droites qui nous soutiennent avec des conseillers municipaux. On le voit bien en termes de parrainage. En 2022, c'était Valérie Pécresse qui avait le plus de parrainage. Je crois que c'est au nombre de 2000. Après, il n'y a pas beaucoup de maires qui parrainent non plus parce qu'il y a des pressions derrière tout ça de tous les côtés. C'est bien dommage. Mais je pense qu'il faut qu'on maintienne... Nos municipalités qu'on a acquis, nos conseillers départementaux, nos conseillers régionaux, etc. Ça prouve bien qu'on est encore présent, puisqu'au Sénat, nous disposons du plus gros groupe et de la majorité. Donc on a 130 sénateurs, je crois. Enfin, on a eu une baisse. On a eu une baisse. Mais enfin, une légère baisse de 5 ou 6 sénateurs. Avec l'Union centriste, en tout cas, on a la majorité absolue. Donc ça prouve déjà qu'on est quand même ancré sur le territoire, puisque... les sénateurs, c'est quand même les représentants des territoires et des collectivités. Donc ça prouve bien quand même qu'on est assez présent sur le territoire. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer et amplifier notre majorité. Donc en 2026, bien évidemment, il va falloir relancer et essayer d'acquérir le plus de mairies possible. Je pense notamment à la mairie de Paris, où le groupe Changer Paris, présidé par Rachida Dati, devrait remporter, je l'espère, parce qu'on a une Anne Hidalgo qui est très contestée. Elle fait des choses pour le climat, c'est vrai. Peut-être aller un peu trop loin. Je ne suis pas sûr que le périph' à 50 km/h, je ne suis pas sûr que pour les livreurs la nuit, ça soit très sympathique. Je ne suis pas sûr que non plus fermer des voies pour mettre des bus en plein JO, je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant non plus. Donc oui, pour l'écologie, c'est bien, elle a mis des vélos en place, des trottinettes électriques qu'elle a décidé de supprimer parce qu'elles servaient plus à faire du combustible pendant les manifestations qu'autre chose. Mais oui, alors après, il y a la mairie de Rennes.
Ce qui n'est pas très bon pour le climat, reconnaissez-le.
Non plus, bah non, une batterie de lithium qui explose et qui crame, ou des Tesla sur le bord de la route... dans le 6e ou 7e arrondissement, c'est pas sûr que ça soit très nécessaire non plus, et très bien pour le climat. Mais on a d'autres mairies, je pense notamment à Rennes, où on a le mouvement Rennes à droite qui mise énormément pour prendre la mairie. On a une mairie qui aujourd'hui a une hausse de la délinquance avec des fusillades à tout va, je crois que c'est 20 fusillades depuis 2023, c'est quand
on
même...
On a parlé sur cette antenne plusieurs fois avec justement des représentants de Rennes à droite. Là aussi, il y a des grandes villes. Alors, Rennes, effectivement. Bon, puis il y a des bastions. On pense à Brest, par exemple, ici, qui est quand même bastion socialiste depuis bien longtemps. C'est, j'allais presque dire, un rêve pour LR de conquérir une ville comme Brest. Voilà, je vous provoque un peu.
Je dirais pas un rêve, mais c'est la population qui décidera de toute façon. Après, si le candidat et la liste qui est présentée et investie, s'ils se donnent tous les moyens, normalement, il y a des raisons qu'ils accèdent au second tour. Normalement, ça devra arriver, je l'espère. Après, qu'on gagne ou pas, ça, à voir. Moi, sur Brest, je m'y connais pas trop. Enfin, je vais pas vous le cacher que c'est un peu à l'autre bout de la Bretagne. Donc, voilà, ça...
Attention, les Brestois nous écoutent en DAB. Hein.
je sais bien, mais je leur souhaite aucun mal. Hein. C'est juste que, non, je connais moins cette partie de la Bretagne, le Finistère. Donc, je connais plus le côté du 56 avec la mairie de Vannes. J'espère qu'on va garder la mairie de Vannes. Normalement, c'est acquis. On verra. Mais voilà, c'est surtout Rennes qui est assez la ville la plus critique de Bretagne, où on a des chances de passer, je l'espère.
Avec ces échéances municipales, il y aura une autre échéance, ça ne vous aura pas échappé. Et ma question, vous la voyez venir, j'en suis sûr, Lancelot Durand. Bruno Retailleau, président effectivement de LR, peut-être président tout court ?
Je sais pas. Là, aujourd'hui, on est à 2 ans de la présidentielle. Je sais pas.
Il a l'étoffe, selon vous, d'un président de la République ?
Je pense. Sa figure se présidentialise en étant ministre d'État, ministre de l'Intérieur, comme Nicolas Sarkozy a pu le faire dans les années 2000, dans le gouvernement sous la présidence de Jacques Chirac. Mais après, je pense qu'il est c'est quelqu'un qui pourrait y aller. Au niveau des sondages, il fait des scores intéressants, mais après les sondages, ça veut dire tout et n'importe quoi. En 2 ans, en 1 mois, ça peut vite fait tout basculer. Donc, parce qu'on l'a bien vu en 2022, on avait Éric Zemmour qui accédait au second tour dès qu'il s'est présenté, et au final, il a fait que 7%. Donc, voilà, faut se méfier des sondages, surtout à 2 ans, ça veut tout et rien dire. Il y avait des sondages qui disaient encore en 2022, 2021 que Marine Le Pen allait gagner. Bon, aujourd'hui, on voit bien que ça peut changer. On peut avoir un Mélenchon au second tour. Enfin, c'est très variable. Après, il peut y avoir d'autres personnalités à droite qui peuvent se présenter. Le mieux, ça serait de faire une alliance ou de fédérer. On a d'autres personnes du centre-droite, comme Édouard Philippe, qui veulent se présenter, comme Gérald Darmanin ou Gabriel Attal, qui fait partie plutôt de l'aile gauche. Mais voilà, je pense que ça sert à rien de diviser le bloc central et la droite.
Il faut qu'il y ait une union, justement, pour pouvoir gagner, pour faire face à l'union de la gauche, si elle arrive à s'entendre.
Je pense qu'il faut, oui. Enfin, moi, en tout cas, je suis pour une alliance du centre et de la droite, donc une alliance entre Horizon et LR. Et un vote des adhérents qui décide qui part à la présidentielle. Mais un vote, mais pas forcément une primaire, avec des débats, premier tour, second tour. Je pense qu'on va plus se diviser qu'autre chose.
Faut tourner là aussi la page des primaires.
C'est totalement. On l'a bien vu en 2022. 5 candidats chez LR. On avait Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Michel Barnier et Philippe Juvin. Ça divise les militants qui nous restaient en 5. Alors après, pour un peu qu'il y en ait certains ils ont passé leur temps à se tirer dessus à boulet rouge pendant toute la période de primaire. C'est irréconciliable. On avait Éric Ciotti qui était totalement opposé à Valérie Pécresse. Bon, voilà, on a fait 5%, je suis pas sûr, enfin même pas, 4,75%. Je suis pas sûr que ça soit très honorable comme score. On l'a bien vu chez le PS, hein, ils ont fait une primaire aussi. Bon, Anne Hidalgo a fait 1,75%. Donc, les partis qui n'ont pas fait de primaire, je pense au Rassemblement National, là, il n'y a pas eu de souci, ils sont arrivés au second tour. Emmanuel Macron, pareil. La France Insoumise, c'est pareil. Les écologistes, il y avait plus une primaire. Après, ils ont fait une espèce de primaire commune avec Christiane Taubira, etc. Enfin, c'était un peu flou parce qu'il y a eu des candidats quand même qui se sont présentés qui ne devaient pas. C'était un peu les égos qui prenaient le dessus. Mais bon, oui, non, moi, je suis totalement opposé aux primaires.
Avec aujourd'hui une France très divisée, très fracturée, des problèmes sociaux, un budget en berne, on le voit. Alors voilà, on ne va pas dresser un tableau noir, mais enfin, on peut dire quand même que l'avenir n'est pas ensoleillé, pour prendre une métaphore météorologique. Il va falloir arriver à proposer aux Français avant un véritable projet, un projet économique certainement, un projet social. Justement, comment arriver à allier les deux dans les valeurs de droite sans risquer l'explosion sociale aujourd'hui? On voit qu'on est quand même un petit peu au bord du gouffre.
Oui, mais qu'est-ce que demandent les Français exactement? C'est moins de services publics, plus de services publics,
plus de services publics, oui.
Et moins de dépenses inutiles.
Moins de dépenses publiques, hein.
Moins de dépenses publiques inutiles, et on a de la bureaucratie qu'il faut supprimer. Mmh. Alors c'est pas le tout de dire on va diviser le nombre d'agences par deux. Il y a certainement certaines qui servent, faut y aller au cas par cas. Mmh. Et là, je pense qu'on pourra faire des économies. On a des subventions, des aides qui sont données à tout et n'importe qui. Voilà, faut revoir ça. Aujourd'hui, on a tendance à dire, il y a certaines associations qui attendent trop de l'État. Mmh. Ils sont gavés aux aides publiques. Faut savoir aussi être assez indépendant. Et il y a certaines collectivités territoriales qui partent du principe que on va attendre de l'État pour être subventionné sur tel ou tel projet. J'entendais l'autre jour Bruno Retailleau qui disait que lui, dans sa commune, non, quand il était vice-président du conseil régional, ils ont fait, ou conseil départemental, je ne sais plus, ils ont fait une piste cyclable. Il n'a pas attendu des aides de l'État pour le faire. Mmh. Il y en a certaines aujourd'hui de régions, de collectivités, notamment à gauche, qui disent « Oui, on va attendre que l'État nous donne l'argent avant de le faire, mais il faut peut-être entreprendre avant. Il ne faut pas attendre tout de l'État. »
Il faut revoir la culture, finalement, des aides de l'État, y compris pour les associations. Il faut revoir le modèle, finalement, quelque part, ou repenser le modèle différemment.
Alors, malheureusement, il y a des associations, elles ne peuvent pas se passer d'aide non plus. Il ne faut pas non plus...
Alors, moi, je pense aux associations culturelles, qui,
oui,
aujourd'hui,
où on a des intermittents du spectacle qui ont du mal à tirer des salaires. Donc, oui, bien évidemment, il faut des aides publiques. Mais il y a d'autres associations qui ont des portées des fonds internationaux qui ne nous concernent pas trop, qui ne servent à rien d'aider. Je pense notamment à SOS Méditerranée. La région Bretagne donne 400 000 euros. Je crois qu'on est dans ceux qui donnent le plus. Et ça concerne la Méditerranée, ça ne concerne pas la Bretagne. Donc oui, il y a un enjeu humanitaire, je m'en doute bien. Mais ça ne nous concerne pas, quoi. C'est 400 000 euros qui pourraient partir pour des radios, par exemple.
Voilà, je vous promets qu'on ne s'était pas concerté avant. Mais oui, effectivement.
Pour des radios ou autre chose, d'ailleurs, des fest-noz ou les Vieilles Charrues ou des festivals comme ça, je pense.
Il y a une inquiétude du monde de la culture, Lancelot Durand, aujourd'hui, parce que la culture, c'est un des piliers aussi de la République et puis de la vie sociale.
Ah, c'est ce qui structure une société, exactement. Donc moi, je pense au municipal. Dans ma commune, on a un budget de la culture qui a été créé avec la première adjointe qui est à la culture. À la mairie de Vennes, c'est pareil. On a Fabien Le Guernevet qui est conseiller régional également, qui est également à la culture. D'ailleurs, il a été nommé chevalier des arts et des lettres très récemment. Donc ça prouve son engagement pour la culture. On a franchement besoin de la culture. La culture structure la société. Et nous, je pense notamment à Saint-Kel-Guildo, on met en place des choses pour le patrimoine. On a eu une pièce de théâtre qui a été écrite par une habitante de Saint-Kel-Guildo et qui a été mise en scène sur 4 jours en mars dernier. Donc oui, il faut miser sur la culture. À Saint-Kel-Guildo, c'est quand même 99 associations pour une commune de 3500 habitants, un peu moins. C'est quand même assez costaud et assez intéressant. Donc oui, on aide les associations avec la mairie. Je pense notamment au comité des fêtes, mais même d'autres associations de jeunes. Il y en a une notamment de jeunes qui fait un festival cet été, depuis déjà 2-3 années. Et ils ont une partie, c'est de la subvention communale. Il y en a une autre, c'est des fonds propres qu'ils essayent de trouver par le biais de mécènes ou de dons.
Là aussi, c'est un nouveau modèle qui peut émerger.
C'est un nouveau modèle avec de l'autofinancement, si vous voulez, et qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont, ils attendent pas, en fait. Ils se disent pas, allez, c'est bon, on va attendre. Si on se bouge pas trop, s'il manque des sous, on va attendre, la mairie va nous donner, quoi. Et je pense qu'il faut aller vers ça aussi. Je pense qu'on attend, certaines associations attendent de trop.
Il faut un rééquilibre aussi des subventions, parce qu'on voit des associations très bien dotées, d'autres un peu moins. Il faut avoir un rééquilibre.
Je pense notamment à la région de Laurent Wauquiez. On avait la CGT qui avait 3 millions d'euros d'aide. Est-ce que c'est normal que la CGT ait 3 millions d'euros d'aide? Bon, il a tout coupé parce qu'il ne s'entendait pas avec eux. Je ne suis pas sûr qu'il fallait tout couper non plus, parce que ça fait un peu trop radical. Mais 3 millions, ça me paraît bien conséquent pour une région. Avec 3 millions d'euros, je ne sais pas ce que vous faites, mais je pense que vous avez un bureau en or.
Ah oui, mais bon, je veux bien.
Il faut mieux mettre 1 million d'euros ou 500 000 et répartir plus équitablement entre toutes les associations et dire, voilà, avoir une vision plus égalitaire de l'aide.
Parce qu'on a vu le cas en région Pays de Loire où Christelle Morançais, la présidente, a coupé carrément les aides aux associations.
Elle a coupé à 90%.
Voilà, ce qui pose un problème là encore. Alors pour les radios associatives, c'est une chose, mais plus largement pour le monde de la culture.
Alors c'est une coupe dans les dépenses, c'est sûr, mais elle est allée au-delà de ce que lui demandait le gouvernement. C'est bien, elle a fait une réduction des dépenses, mais je pense pas qu'il fallait tout miser sur la culture. Parce que, non, je pense pas que c'était pas très nécessaire. Je pense qu'il y a d'autres services où on peut taper. Nous, à la région Bretagne, il y a d'autres services où on peut taper. Je pense à la communication, il y a 70 employés. Je suis pas sûr que ça soit très nécessaire. Mairie de Paris, 400 employés à la communication. Donc, je suis pas sûr que ça soit très nécessaire aussi. Donc, faut étudier, faut que chaque collectivité étudie. C'est pas forcément simple. Et se dise, il y a certaines compétences où on met trop. Plutôt que de dire, bah non, on peut pas, autrement, on va sacrifier. Non. Oui, il faudra faire des sacrifices, c'est sûr. Ça va pas laisser tout le monde. S'il y a une dépense, il y a forcément quelqu'un qui va être impacté, c'est vrai. Mais non, je pense certainement que faut étudier au cas par cas, et au lieu de miser tout les réductions des dépenses sur un domaine en particulier, faut mieux miser sur l'ensemble et prendre un petit peu partout plutôt que de prendre un gros endroit et faire un gros creux, un gros déficit.
Voilà, là encore, la loi des équilibres. Il nous reste 4 petites minutes, Lancelot Durand. Il y a eu ce rapport qui n'a rien à voir avec la culture ou ni même le budget, mais ce rapport qui vient de sortir autour de l'entrisme des frères musulmans dans la société française depuis de nombreuses années, si l'on en croit les 73 pages du rapport. Un rapport quand même qui suscite de l'inquiétude sur ce qui se passe en France, dans les quartiers, mais aussi dans certaines régions françaises. Inquiétude au niveau du gouvernement, puisque Emmanuel Macron et de l'exécutif, puisque Emmanuel Macron a décidé de convoquer ce matin un conseil de sécurité qui n'était pas à l'agenda à l'origine. On parle de risque pour la République. Il faut être prudent sur cet entrisme, sur ce changement de société.
Un conseil de sécurité, déjà, ce n'est pas rien. C'est qu'il y a une menace réelle et que la DGSI et la DGSE ont alerté grandement la République et le ministère de l'Intérieur sur les dangers des frères musulmans. Après, on soumet déjà quelques doutes depuis quelques temps. Bon, je sais pas ce qu'il en est exactement, parce qu'il y a une partie classée défense. Bon, il y a certaines pages qui sont déjà sorties, mais...
Il y a 70 pages sur une centaine, je crois.
Ouais, c'est ça. Bon, moi, personnellement, je les ai pas lues. Mais oui, c'est sûr, s'il y a un conseil de sécurité, c'est qu'il y a vraiment un gros danger pour la République. Et il y a potentiellement des liens avec des associations, enfin, des mouvements islamistes, comme on peut l'avoir, des terroristes comme Daesh, etc. Ça pose des questions pour la République, parce que c'est des gens qui n'ont cessé, à travers leurs attentats, des attaques à la République, contre la laïcité et contre le monde occidental, d'une manière générale, en voulant imposer un califat, etc. Donc, ces gens-là, c'est un entrisme. Ces gens-là cherchent à affaiblir la République et à affaiblir le pouvoir de l'État. En étant un peu partout, l'État est assez impuissant face au terrorisme. Enfin, tous les États du monde, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas qui ils sont, et ça tape à peu près à n'importe où, et ça fait des blessés, des dégâts, et plus ça va, plus ça emmène de la colère au sein de la population, ce qui peut amener à un vote plutôt à l'extrême droite.
Avec quand même, là aussi, des partis comme LFI qui n'arrangent pas les choses, qui sont quand même plutôt... Voilà, en tout cas, on leur prête ces idées-là.
Bah, au nom de l'islamophobie, ils les soutiennent et tiennent des bons liens avec les frères musulmans. À part un intérêt électoraliste, je ne vois pas trop l'intérêt. De toute façon, la France insoumise, depuis 2022, crie à l'islamophobie et mise tout pour les musulmans pour récupérer cet électorat qui est de plus en plus conséquent en France. Bon, se servir de la population et des immigrés notamment pour faire des voix, c'est pas très honorable, c'est pas non plus très digne de leur part de se servir de ces gens en disant qu'ils vont les défendre. Au final, ils s'en servent juste pour accéder aux fonctions de la présidence de la République. Bon, c'est comme ça, mais oui, c'est sûr que la France insoumise tient des liens très bizarres avec ça.
Voilà, donc on va surveiller ce qui sortira de ce Conseil de sécurité qui a lieu donc aujourd'hui avec Emmanuel Macron, les principaux responsables, dont d'ailleurs Bruno Retailleau qui sera présent à ce Conseil de sécurité. Merci infiniment, Lancelot Durand, d'avoir été avec nous ce matin pour balayer un peu l'actualité politique. Je rappelle que vous êtes membre des Républicains, conseiller, ancien conseiller régional jeune de Bretagne. Vous étiez venu d'ailleurs dans le costume de conseiller régional jeune. Oui. Voilà. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci. Bonne journée à vous et bonne journée aux auditeurs.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.